L'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir Roselyne.
Chaque mot est pesé, chaque poignée de main est scrutée. La diplomatie demande beaucoup de préparation, de patience et de sens de l'équilibre. Emmanuel Macron est revenu hier d'un voyage en Israël, en Cisjordanie, en Jordanie et en Égypte. Il a eu des mots de compassion pour les endeuillés israéliens et tenté de raisonner l'État hébreu, si on peut le raisonner, contre une attaque terrestre en prêchant la modération. Mais il s'est aussi préoccupé du sort des habitants de Gaza en affrétant un navire hôpital pour venir en aide aux Palestiniens. On l'écoute.
J'ai aussi, je veux vous le dire, entendu votre message, comme j'ai entendu l'alarme du roi de Jordanie sur les doubles standards. Nous en avons parlé il y a quelques heures à Amman. Je vais ici être très clair. La France ne pratique pas le double standard. Le droit international s'applique à tout le monde et la France a toujours porté des valeurs universelles d'humanisme. Toutes les vies se valent et il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les victimes méritent notre compassion, notre engagement pour une paix juste et durable au Proche-Orient et cela ne varie pas.
Le président n'a pas demandé de cesser le feu, le pouvait-il, alors qu'il venait d'expliquer qu'Israël avait le droit de se défendre. Seule son initiative de coalition contre le Hamas a semé un doute et un peu de confusion. En France, le dossier sur la future loi immigration fait l'objet de tractations et de conciliabules. La droite ne veut pas de ce fameux article 3 qui permettrait de régulariser les sans-papiers pour combler les métiers dits en tension. L'aile gauche de la Macronie veille au grain pour que l'article ne soit pas supprimé. On en parle avec Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche. Bonsoir à vous.
Bonsoir Rosine.
Catherine Tricot, directrice de la revue Regard.
Bonsoir
à vous. Et bonsoir Henri Vernet.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du Parisien. Donc, un mot de la tournée du président Macron. Est-il, Jean-Marie, d'après vous, couronné de succès? Il faut dire qu'il est le seul à avoir vu les voisins d'Israël.
Oui, vous évoquiez tout à l'heure la coalition anti-Hamas, on y reviendra sûrement,
ouais,
mais c'est, comme ça a été beaucoup critiqué, ça a fait écran au fond du voyage. Le fond du voyage était plutôt positif, me semble-t-il, parce qu'en effet, il a obtenu ce que Biden n'avait pas obtenu, ce que personne d'autre n'avait obtenu, c'est-à-dire qu'il a vu tout le monde, il a vu Mahmoud Abbas, il a vu le roi de Jordanie, il a vu le président égyptien.
Alors, il faut reconnaître que Biden est arrivé au moment, au mauvais
sûr,
moment.
Au moment de l'hôpital, voilà, au moment de la querelle sur l'hôpital, dont on sait maintenant ce qu'il en est, alors que tout le monde était parti. Le Hamas avait, si j'ose dire, frappé le premier en exposant sa version qui a été achetée comme pour argent comptant. Alors même que maintenant, on sait que ça n'était pas la réalité. Donc c'est un voyage où il a tenu assez bien une position, puisque c'est l'obsession française d'équilibre, en tout cas à la fois solidarité avec Israël et puis attention aux Palestiniens, en réhabilitant ou en ressuscitant un petit peu la perspective politique qui, si elle ne trouve pas une issue, si on ne trouve pas une issue politique, je veux dire, on sera encore reparti pour je ne sais combien d'années de guerre. Et donc ça, il a été entendu de ce point de vue-là, il a été écouté. Je pense que ça, c'était très positif, parce que on se plaint toujours de ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Là, en l'espèce, il y a une avancée, d'une certaine façon. Donc après, on verra, parce que la guerre est là, et la guerre va évidemment se dérouler. Mais néanmoins, en mettant en avant l'après, dès maintenant, et en le faisant dans des termes qui sont équilibrés, précisément, je pense qu'il a fait œuvre utile.
Alors, je vais récolter vos avis, Bruno, sur ce voyage. Vous en tirez, vous, quel bilan?
Écoutez, il passait après tout le monde. Il y avait une pression quand même, au moins sur le plan intérieur, sur ce voyage. Il y avait la position d'Emmanuel Macron au lendemain des attaques du 7 octobre que moi j'ai trouvé logique et nécessaire a fini par être un peu critiqué parce que c'est Jean-Marie vient de l'expliquer, c'était pas en écho avec la position traditionnelle de la France sur cette région qui est une position d'équilibre. Là, il a renoué avec cette position d'équilibre. Il a en quelque sorte un peu corrigé le tir, mais tout en restant sur son discours. Hein. Il a peu évolué, en fait, mais simplement, il l'a réaffirmé. D'abord à Jérusalem, ensuite il est allé à Ramallah, déplacement que n'avaient pas fait la plupart des autres leaders qui sont allés dans la région. Et puis il a réussi à élargir en allant dans deux capitales arabes. Donc sur le plan diplomatique, on va dire qu'il a plutôt réussi son voyage. Après, il ne faut pas être dupe. On voit bien que toutes les manœuvres consistent à modérer le plus possible, à retarder le plus possible l'attaque de l'armée israélienne. On verra ce qu'il en est. Ce matin, il y a eu des incursions. Mais je pense que l'autre versant très important de ce voyage, c'est sur les otages. Il était un petit peu imprudent sur ses dernières déclarations en parlant dans quelques heures de la libération des otages. Ouais. Mais on sent que là, la France essaie de tirer le fil des amitiés qu'elle a dans les Émirats. Et on sait qu'ils ont œuvré la libération des 4 otages.
Ouais.
On a d'ailleurs un nouveau bilan. Le président a donné lui-même un nouveau bilan hein, de 9 otages, ce qui n'est pas rien. Et surtout des 35 victimes, ce qui fait quand même de cette journée du 7 octobre l'attentat le plus sanglant ayant touché des Français depuis Nice.
Et depuis le Karachi, enfin ça remonte à l'histoire ancienne. Mais aussi, il a apporté ce que la France peut apporter, c'est-à-dire un navire hôpital.
Oui.
Et ça n'est pas négligeable.
Absolument.
Hein, dans la situation.
Bah, surtout au moment où les Américains, eux, envoient des porte-avions. Voilà. C'est à la fois la mesure de ce que peut faire la France, c'est aussi la mesure, malgré tout, d'un poids qui reste quand même assez marginal. Parce que le navire hôpital, en effet, c'est symbolique et c'est très important, vous avez entièrement raison. Maintenant, c'est aussi le rôle assez traditionnel de l'Europe. Alors la France peut un peu plus, mais qui consiste avant tout à financer sans avoir de poids politique, sans avoir vraiment son mot à dire. Moi, j'ai quand même juste 2 nuances par rapport à ça. C'est que quand on dit qu'il a renoué avec une position d'équilibre, non, ce qui faisait la singularité de la France, mais déjà depuis assez longtemps en réalité, depuis Giscard, la déclaration de Venise, 76 en européenne, c'était plutôt une position pas tellement équilibrée, un peu pro-palestinienne. Oui. Mitterrand, par exemple, quand il arrive, il est assez équilibré, il va à la Knesset, mais il leur dit des vérités. Et longtemps, la France est passée pour le soutien des Palestiniens, avec Mitterrand, qui a fâché les Israéliens par moment, et évidemment avec Chirac. Chirac, comme l'appelait Yasser Arafat. Oui, mais tout cela n'était pas du hasard. C'est vrai qu'à 2 reprises, la France a sauvé littéralement la peau d'Arafat par des évacuations. Ça, c'est une réalité assez concrète. C'est vrai que assez longtemps, elle était la seule, en tout cas dans un concert européen qui n'était pas aligné du tout sur ces bases-là, à défendre ses positions et même à les faire évoluer dans le bon sens. Il y a le fameux épisode de la charte caduque, hein, quand l'OLP de Yasser Arafat renonce à demander la Palestine du fleuve à la mer, c'est-à-dire la suppression d'Israël en quelque sorte. Ça, c'est sous influence française. Donc, c'est vrai qu'elle a joué un rôle.
D'ailleurs, il dit ça quand c'est à Paris. Hein,
exactement, c'est à Paris. C'est absolument,
c'est une idée de son.
Voilà, et ça prospère et on arrive à ça, donc une évolution majeure quand même, un des éléments qui aboutiront aux accords d'Oslo quelques années plus tard. Ce que je voulais dire, donc c'est est-ce qu'on a restauré cela? Je ne suis pas sûr, néanmoins, c'est vrai que l'immense mérite, le mérite en tout cas d'Emmanuel Macron, c'est jamais populaire de dire que cet homme-là aurait des mérites immenses, c'est en effet d'avoir ramené la France dans le jeu, alors que la France, on ne l'entendait pas sur ce dossier. Je veux dire que ça fait très longtemps,
personne.
On entendait Trump, les accords d'Abraham, on entendait Trump.
Mais justement, les accords d'Abraham vus par Trump, c'est une façon d'ignorer le problème.
Absolument, absolument.
De
bien sûr, on est bien d'accord.
Pas seulement.
Elle va prendre la parole,
Catherine. Non, mais d'autant que Trump, c'est pas seulement qu'on l'entendait pas, c'est qu'il a quand même plutôt mis de l'huile sur le feu en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a pas simplement œuvré pour des rapprochements entre des pays arabes et Israël. Il a aussi aggravé les tensions dans la région, notamment sur cette question de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, alors que c'était pas le cas. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, ça a permis à Macron d'être plus lisible. Son intervention qu'il avait faite quelques jours après, le jeudi soir, après les attentats. En effet, sur le fond, c'était à peu près équivalent à ce qu'il a dit. C'était relativement équilibré, à peu près dans la même veine que ce qu'il a dit, mais là, c'était plus clair. Les signes politiques qui devaient rendre lisible ce discours ont été là, c'est-à-dire en effet la visite à À Mahmoud Abbas, à Ramallah, la décision d'envoyer un porte-avions, un navire militaire, ça donne quand même de la lisibilité. Et à mon avis, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre avec les manifestations dans le monde arabe, quand elles se sont passées en particulier devant les ambassades, je pense que ça a dû pousser quand même la diplomatie française à comprendre qu'il fallait qu'elle... C'est pas qu'elle... Elle n'a pas changé de point de vue, mais elle devait être plus claire dans sa position. Et là, je pense que ça a été le cas. Est-ce que ça suffira à rétablir un climat de confiance entre la France et les pays arabes? C'est pas tout à fait certain, notamment parce qu'il a fait le choix, je ne comprends pas pourquoi, de ne pas prononcer, de ne pas accompagner la demande de cesser le feu, au moins de cesser le feu humanitaire. Oui. Et il n'a pas repris non plus ce qu'il avait mis dans ses déclarations.
Oui, mais est-ce qu'il peut dire cesser le feu et en même temps dire à Israël, vous pouvez vous défendre?
Mais il avait...
C'est pas logique. Pas la demande d'une pause exprimée par le roi de Jordanie et par le roi de Jordanie et par le président égyptien, mais un cessez-le-feu avec une organisation
cessez-le-feu
terroriste,
humanitaire, c'est pour ça que c'est cessez-le-feu humanitaire.
C'est
et l'autre point qu'il n'a pas repris alors qu'il l'avait annoncé avant de partir, c'est qu'il avait mis en cause les colonisations.
Oui, et, ça il l'avait fait.
Et il l'a fait avant
d'ailleurs.
De partir. Et il ne le reprend pas sur place.
Il l'a peut-être repris.
Enfin, en tout cas, on n'a pas su. Peut-être qu'il l'a pris dans un tête-à-tête, dans des bilatérales.
Bah,
disons qu'il y a, je pense qu'il y a une clarification, qui a été une clarification assez prudente. Mais néanmoins, je pense qu'elle devrait être un pas vers des relations apaisées avec les pays arabes. Mais mon tout dernier mot, c'est que je pense que c'est une clarification qui était nécessaire en France. C'est-à-dire que notamment, Yael Braun-Pivet, si vous l'avez entendu sur France Inter lundi matin, elle a été obligée de préciser ce qu'elle disait. Quand elle disait soutien inconditionnel à Israël, elle a dû préciser.
Mais elle a gêné l'Élysée sur ce point-là.
Absolument.
L'Élysée, le week-end dernier,
elle a dû se faire recadrer.
Gênée par la déclaration de Yael Braun-Pivet, qui ensuite c'est devenu une polémique pour d'autres raisons, mais sur le fond, elle a plutôt gêné la diplomatie.
Absolument. Et donc, elle s'est fait redresser.
Le même dimanche, Catherine Colonna, tout son message, c'était la reconnaissance d'un État palestinien, la nécessité d'un État palestinien. Elle était sur ces questions-là.
Elle corrigeait le Hamas et les Palestiniens.
L'Élysée, toute la semaine, n'a cessé de vouloir casser cette logique qui était Hamas égale Palestine, Palestine égale Gaza. Ça, c'est vraiment ils ont lutté contre ça toute la semaine.
Et le soutien à Israël est un soutien à la création, à l'État d'Israël, à l'existence de l'État d'Israël, et non pas un soutien au gouvernement et à la politique d'Israël. C'était ça qu'il y avait. Cette ambiguïté dans les déclarations de Yael Braun-Pivet que Macron a essayé de déminer.
Juste pour rebondir sur le passé, je pense qu'en effet, au temps de Giscard, c'était une politique franchement pro-arabe. Il y a un événement qui le matérialise, c'est le secours apporté au roi d'Arabie Saoudite au moment des émeutes de la Mecque.
Avec le GIGN.
Le GIGN sauve en quelque sorte le régime. Mais plus encore, il y a cette image effrayante de Giscard regardant Israël à la jumelle.
Alors, il a toujours dit que c'était un montage.
Oui, mais enfin...
Si on fait de l'histoire, Giscard a dit que c'était un montage. Quand
c'est resté
à Longchamp, dans les tribunes de Longchamp.
Celui qui équilibre la position française, c'est François Mitterrand. Mais simplement, il faut rappeler qu'au temps de François Mitterrand, il se passe les événements de 1982, c'est-à-dire le Drakkar. Et donc là, on est obligé de partir. Il y a 50 parachutistes français qui perdent la vie. Et c'est de là que date le fait qu'on s'en va, de fait, de cette région, de facto. Après, qu'est-ce qu'on y fait? On y vend essentiellement des armes. C'est ça, l'influence française, elle est aussi... 70% de nos exportations d'armes, c'est l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe. Et ça, c'est un invariant de la politique française. Donc après, le poids diplomatique que l'on peut avoir, si on n'est pas nous-mêmes le leader de l'Europe, on en a peu. Ouais. Et donc, il faut toujours revenir à cette réalité. La France ne peut être forte que si elle exerce concrètement un leadership en Europe.
Et peut-être aussi, Henri, est-ce que Emmanuel Macron prend aussi des pincettes parce qu'il sait qu'il a la plus grande communauté juive d'Europe et une forte communauté.
Mais exactement. Et dans les invariants, vous avez entièrement raison de citer le commerce des armes et ce poids-là, le poids de la réelle politique. Mais en effet, il y a aussi le poids intérieur et donc des communautés, oui, les plus fortes d'Europe. Et ça, évidemment, que cela pèse, que cela joue. Néanmoins, le fait quand même que ça tient aussi à la diplomatie française pendant très longtemps, pendant des centaines d'années en tout cas. Pendant longtemps, ça a été une diplomatie assez créative et assez inventive. Elle s'est peut-être pas éteinte, mais enfin elle est quand même un peu sous l'éteignoir depuis des années, notamment par le fait de vouloir se conformer à l'Europe. Or, il se trouve que l'UE, surtout plus elle s'élargit, et plus c'est un ectoplasme en matière de diplomatie, en matière de projection de puissance. Il y a vraiment un décalage énorme entre cette volonté d'être une puissance autonome, stratégique, tout ce qu'on voudra, et la réalité. Et c'est vrai qu'il y a peu de pays qui peuvent porter cela. Donc, il y a les invariants, il y a, c'est vrai, ce souci des deux communautés, c'est-à-dire embêtant qu'on soit là à parler de communauté, alors que bon, c'est un pays, c'est, on fait république normalement, mais hélas, avec en effet énormément de contestations de ce principe-là, de cette idée, et donc bien sûr que c'est qu'il faut en tenir compte, et c'est très clair que beaucoup d'images, parce que ce voyage a été riche en images, beaucoup de ces images sont en effet formatées en quelque sorte à l'usage de l'opinion intérieure. Quand on voit par exemple Macron avec Mahmoud Abbas, je veux dire Mahmoud Abbas, il pèse plus rien, y compris auprès des siens, auprès des Palestiniens, ça a beaucoup de ressorts.
Mais il est à Ramallah.
France, ça montre, mais bien sûr. Donc il y a les images très émues aux côtés de Netanyahou, la solidarité sans faille. Et là aussi, c'est beaucoup aussi à l'usage interne. C'est une réponse totale aux polémiques sur alors est-ce que Hamas est terroriste ou pas. Je veux dire une polémique surréaliste lancée en tout cas alors encore défendant par LFI, par les insoumis. On trouvera tout un tas comme ça de d'images qui sont importantes. En revanche, il n'y a pas eu tellement d'images avec le roi de Jordanie parce que on voit bien qu'il y a eu une vraie réserve.
Le roi ne le souhaitait pas.
Sa femme est palestinienne. La reine est palestinienne.
Mais alors comme la majorité de la population jordanienne, d'origine absolument d'origine palestinienne. La reine qui a fait sa déclaration sur CNN au moment de la visite de Macron. Ouais. Donc tout cela a été vraiment pesé au trébuchet. Justement pour bien montrer, pour dénoncer ce qui à leurs yeux constitue un double standard, un deux poids deux mesures de la part des Occidentaux et malgré tout encore de la France telle qu'elle est vue par la rue arabe.
Sur le deux poids deux mesures, c'est une sinistre plaisanterie, la deux poids deux mesures. De l'accusation dont on fait l'objet. Parce que si on regarde, par exemple, l'Arabie saoudite qui a écrasé sous les bombes une bonne part de la population civile du Yémen, les a entendus protester.
Et l'indifférence aux Ouïghours, l'indifférence aux musulmans indiens.
Aux armes chimiques utilisées par Hafez al-Assad contre sa population en Syrie. On les a entendus dire, c'est un double langage ou autre. Je veux dire, il y a des choses qui sont difficiles à entendre compte tenu de cela, précisément.
Et Catherine Syrie, et après Bruno.
On pourrait citer d'autres événements, on pourrait citer le Soudan, on pourrait citer d'autres...
Moi, ce que je retiens dans cette exigence de deux poids, deux mesures, notamment de la part de la rue arabe, c'est qu'à un moment où on se demande comment on va faire un monde commun, ça permet de se dire qu'on a des valeurs que l'on partage. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Il n'y a pas le monde occidental qui serait d'un côté et le reste du monde face à lui. C'est-à-dire cette exigence de cohérence avec les principes que nous énonçons et qui se traduit par la question des deux poids, deux mesures, en fait, est une exigence des populations pour que nous respections nos principes. Après, on peut dire, mais c'est pas vrai, en fait, on les respecte, on les respectera mieux, etc. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui unifie encore ce monde.
C'est la version optimiste et positive.
Voilà.
Parce que
à un moment...
Je suis prêt à souscrire à ce que vous dites, mais vous avez vu ces manifestants qui manifestent pour précisément demander de dire deux poids, deux mesures. Mais vous les avez vus se mobiliser en masse sur le sort des femmes iraniennes.
Oui, ce que je veux...
Vous les avez vus?
Non, je ne les ai pas vus.
Il y avait une tradition en France internationaliste. Elle a totalement disparu.
Ce qui me...
Elle s'est perdue dans les...
Je parle de la rue, pas simplement de la rue française. Moi, je parlais de la rue en général, où le deux poids des mesures nous est reproché, et que je préfère ça, plutôt que d'avoir une revendication, je dirais, islamiste. C'est-à-dire que là, on reste encore dans le domaine des références et des valeurs politiques que l'on peut partager.
Alors, Bruno, j'aimerais qu'on dise un mot de la proposition, justement, des Emmanuel Macron, qui est un peu fait pchit, comme dirait Jacques Chirac, qui a laissé en tout cas perplexe ses interlocuteurs sur cette coalition contre le Hamas. Je vous propose de l'écouter.
La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous.
Voilà, alors réaction de Bruno Retailleau chez Les Républicains à parler de bourde diplomatique et Jean-Luc Mélenchon dans un tweet y voit le retour de la théorie de la guerre au terrorisme de George W. Bush et des néoconservateurs. C'est tout un monde, dit-il, que la diplomatie française récusait. Voilà ce qu'il a ajouté dans son tweet. Et je vous propose peut-être d'écouter Jordan Bardella sur cette proposition d'Emmanuel Macron.
Ça ressemble à ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a sorti une annonce de son chapeau dont manifestement ni le Quai d'Orsay ni ses services à l'Élysée ne sont au courant et qui pose un certain nombre de flous.
Était-ce vraiment une bourde ou alors ça a été mal compris, mal expliqué? Vous disiez tout à l'heure, il y a un instant, que l'Élysée a un peu sorti les rames après pour...
Au minimum, c'était pas bien bordé son affaire, c'est moins qu'on puisse
qu'est-ce
dire,
puisque dans la foulée
de cette déclaration, ouais. L'Élysée a fait un communiqué pour essayer de préciser les choses. Donc bon, voilà, c'est quelque chose qui était à l'état sans doute de travail entre le président et sa cellule diplomatique de l'Élysée. Il s'est lancé, il s'est avancé, il avait prévenu quelques-uns. Bon, ça a fait un flop. C'est compliqué, hein.
Cette
coalition anti-Hamas, puisqu'on va la résumer comme ça, ce que voulait Macron sur le modèle de la coalition anti-Daesh. La coalition anti-Daesh, ça existe depuis 2014, c'est dirigé par les États-Unis. Il y a 22 pays, principalement des pays européens, mais il y a aussi beaucoup de pays arabes qui n'ont pas reconnu, qui n'ont pas condamné les attaques du 7 octobre. Donc bon,
il y a la Turquie.
Le temps de mettre tout le monde là-dedans, je pense que bon voilà. Après, ça fait partie aussi de la posture macronienne. C'est une diplomatie un peu du risque. D'un voyage qui a plutôt, à mon avis, été réussi. Ce passage-là n'a pas été le plus, comment dirais-je, un peu acrobatique.
Mais ce qui est frappant, c'est quand même l'appétit, la gourmandise, pour ne pas dire plus, avec lequel
les
médias et les oppositions se sont jetés là-dessus,
sur ce point-là,
éclipsant complètement le reste du voyage.
Oui, quand même la réussite du voyage, contenu, faut le dire.
Et par ailleurs, il y avait quand même une signification symbolique. Je ne dis pas qu'il a eu raison, parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, Roselyne, une diplomatie, ça se prépare. Et là, manifestement, c'était, comme l'a dit Jordan Bardella, sorti du chapeau. Bon, ça, bien sûr. Mais cela dit, la symbolique était forte, parce que c'était de dire « le Hamas, c'est comme Daesh ». Et le Hamas, c'est comme Daesh, c'est ce que disent les Israéliens aussi. C'est-à-dire qu'on a affaire non pas à une armée combattante ou à des libérateurs, comme le dit maintenant Erdogan, on a affaire à un mouvement terroriste. Et donc, c'est de l'assimilation. Le symbole était là pour dire cela. Et je pense que pour des oreilles...
Oui, donc ça tenait plus du symbolique que d'autre chose.
Pour celles et ceux qui ont été frappés par l'extermination recherchée par le Hamas lorsqu'il a frappé Israël le 7 octobre, ça n'est pas sans signification.
Henri.
Enfin, éclipsé, je ne suis pas d'accord, parce que le fait est, ce qu'on retient quand même c'est avoir remis sur la, en scène et en selle, si je puis dire, l'idée des deux États. Ça, franchement, c'était totalement éclipsé depuis des années. Oui. Là, vraiment, c'est
Biden
quelque chose qui est important.
Biden,
il n'était pas tellement audible là-dessus. Là, vraiment, il y a quand même un pas qui est restauré, qui est franchi comme on voudra, et donc c'est comme ça qu'il reste. C'est vrai que pas mal. Parce qu'on était surpris. D'abord, par exemple, pour aborder ce que disait Bruno Mouet, il se trouve que j'ai assisté au brief des conseillers de la cellule Diplo quelques heures avant le départ. Et franchement, ils rentraient pas mal dans le détail en disant ce qu'ils se préparaient, mais il n'y a pas eu un mot sur une telle initiative. Et quand on les a vus à Jérusalem, mais non, pas du tout.
C'est né dans l'avion.
Mais pourquoi pas? Mais Macron, il est comme ça. Oui. Quand il avait volé vers l'Ukraine et Moscou, quelques jours avant l'invasion russe, il avait aussi sorti quelque chose qui avait un peu frappé les Finlandais, etc. Parce qu'il a ce côté, il est toujours un petit peu dans la créativité, parfois hasardeuse, l'expérimentation hasardeuse, comme on dira à propos d'un autre président, il peut avoir ce côté-là, et là, ça lui retombe un peu dessus. Mais oui, avec l'idée, je suis dans mon avion, je vais en Israël, il faut que je donne quelque chose à Netanyahou. Il faut en quelque sorte, Netanyahou, non, vous aviez raison, pas à Netanyahou, mais à Israël, absolument.
Israël qui
absolument.
L'a accueilli froidement.
Et qui l'a accueilli plutôt froidement. Il n'y a pas eu d'accolade, entre les deux hommes, contrairement à Biden et Netanyahou.
La
mais
Bibi,
bref.
Macron a appelé Netanyahou.
Mais quand même, vous voyez que physiquement, il n'y avait pas l'empathie. Ouais. Attendez, Macron, il adore saisir ses interlocuteurs, faire des accolades, etc. Il ne l'a pas du tout fait. Et donc, il y a quand même cette espèce de réserve. On sent que la France mise un petit peu déjà, mais comme beaucoup, sur ce qui se passera après, une fois que les commissions d'enquête viendront. Mais sur cette initiative, malgré tout, c'est quand même vraiment à côté de la plaque, parce que alors le Hamas, c'est monstrueux, ça, il n'y a vraiment aucun débat là-dessus, c'est une organisation terroriste, à n'en pas douter. Mais sauf que, et vous l'avez rappelé, pour les pays arabes, c'est pas le cas. Pour la majorité d'entre eux, ce n'est pas le cas. C'est d'ailleurs pas reconnu comme terroriste par l'ONU. Mais enfin, l'ONU est aussi tenue par bien des pays qui sont pas sur cette ligne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était hasardeux dans la mesure où, par avance, on peut savoir que très peu de pays, très peu d'États pourraient participer à une telle coalition. Tout simplement parce que d'abord, dans la coalition anti-Daesh, il y a des pays qui ne reconnaissent même pas Israël. C'est le cas, par exemple, de l'Irak. Et puis, en effet, il y a Erdogan, la Turquie. Et quand on entend Erdogan dire désormais que le Hamas est un mouvement libérateur, on voit que là, oui, c'est quand même un faux pas diplomatique dont on ne voit pas très bien comment ils pourront ajuster les choses.
On aura vite oublié. Et ce qui va rester, c'est effectivement ce navire hôpital qui arrive. Parce que là, quand même, c'est du concret. Et puis, quand même, en faveur des Palestiniens qui vivent une situation tragique.
Moi, j'ai le sentiment qu'il a juste un dernier mot. J'ai le sentiment qu'il a voulu avoir un trépied, c'est-à-dire qu'il voulait couvrir les trois, il a cherché qu'est-ce qu'il pouvait bien inventer sur ce terrain-là. Donc, il a mis ça.
Puis il a un peu trop confiance en lui-même.
Il doute de rien. Il a une idée. Hop, j'y vais.
Moi, je vais les séduire, je vais les convaincre.
Oui, c'est ça. Oui, qui a marché en France vachement bien. Mais
il y a eu Villepin, il y en a eu des.
Non, mais c'est vrai. Mais le seul point qui me préoccupe, c'est qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas de réponse politique à l'influence que moi je crois grandissante du Hamas dans le monde arabe de façon préoccupante. C'est-à-dire que le Hamas était quand même un petit parti, éventuellement d'ailleurs en déclin à Gaza. C'est d'ailleurs les sondages le donnaient comme vraiment fragilisé. Et puis là, il apparaît comme une grande force qui a remis à l'agenda. Moi, je pense qu'on a vraiment... Comment ?
Une grande force bâtie par l'Iran.
Oui, mais c'est possible, mais elle est reconnue désormais dans le monde arabe comme étant celle qui a remis à l'agenda.
Aucun régime aujourd'hui ne pense vraiment.
Mais moi je ne parle pas du régime, moi je parle de la rue. Et ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la proposition que fait Emmanuel Macron en ciblant le Hamas, évidemment il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut battre le Hamas, mais je pense que la réponse d'abord militaire me paraît très complexe. Et la deuxième question, c'est qu'il ne faut pas que renforcer le Hamas, à contrario, comment vous dire, il faut réussir à le décrédibiliser sur le fond,
idéologiquement,
et là pour l'instant on n'y est pas.
Je voudrais qu'on parle avant de finir de la loi immigration qui n'en finit pas de diviser, Bruno, la classe politique, alors qu'elle n'est même pas encore rédigée, cette loi, ou à moitié. Donc un rendez-vous et un dîner discret entre la Première ministre et Bruno Retailleau, donc patron des Républicains au Sénat, a inquiété une partie de la majorité. Certains craignent la disparition du volet, donc intégration, pour les métiers dits en tension. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, qui en a quand même remis une louche.
Première chose, elle ne m'a pas dit qu'elle allait retirer l'article 3 de ce texte.
Oui.
Deuxième chose, elle m'a clairement dit que l'article 3, ça n'était pas son choix. Ça sonne donc comme un désaveu. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a confirmé que cette idée folle de créer un droit automatique à la régularisation des clandestins, ça n'était pas une bonne idée. Cette régularisation
donc
massive.
Donc elle est opposée à cette idée. Elle est opposée à cet article.
C'est ce que j'ai compris, en tout cas, de ce qu'elle m'a dit.
C'est ce qu'elle vous a dit.
C'est ce qu'elle m'a dit. Mais elle laisse ses ministres faire.
Alors, d'habitude, dans les dîners privés, généralement, les participants ne disent jamais ce qui s'est dit. Là, Bruno Retailleau, il cafte, pardonnez-moi l'expression, mais il vient répéter. La teneur de censée être secrète.
Il y a plusieurs hypothèses. Je n'ai pas parlé à Bruno Retailleau ces 48 dernières heures, mais ce qui est certain, c'est que Bruno Retailleau entretient une bonne relation avec Elisabeth Borne, qui remonte déjà à l'époque de la réforme des retraites. Sans doute, cette discussion était entre eux et elle s'est retrouvée en partie dans le journal d'Henri Vernet. Je pense que Retailleau lui-même est plutôt sur une ligne dure, mais il sait qu'au Sénat, il y a une partie du groupe LR qui pense qu'il faut essayer de travailler à un compromis ou trouver quelque chose qui permette de vider l'article 3 de son contenu. L'article 3, c'est celui sur les métiers en tension. Surtout au Sénat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des centristes qui sont importants,
dirigés par le sénateur Hervé Marseille, ils sont pour le texte du gouvernement. Donc, c'est pas si simple.
Y compris avec l'article 3.
Y compris avec l'article 3. Donc, pour les LR, il y a aussi une situation au Sénat qui n'est pas si simple que ça.
Alors, quel parti risque de l'emporter, dans le fond
Pour une fois, le texte au Sénat va être une discussion très importante parce que soit ils trouveront un accord et ce texte-là servira de base et ça mettra les LR de l'Assemblée en difficulté si jamais ils trouvent un accord entre LR et le gouvernement, soit ils ne trouvent pas d'accord, auquel cas là le gouvernement ne pourra faire que d'aller au 49-3
mais il y a toujours la clochette et la menace de la motion de censure, mais bon, ce que on sait, la droite ne fera pas parce que sinon elle se retrouvera
donc ce qui est compliqué, alors en plus on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est la géographie politique de l'Assemblée fait que le petit groupe Pouliot qui était très remonté sur la réforme des retraites contre le gouvernement là est plutôt en soutien de Gérald Darmanin. Donc les LR, de toute façon, techniquement, ils n'ont pas les moyens de déposer une motion de censure, sauf à la faire signer par du RN ou de la gauche. Donc il y a aussi ils n'ont pas les moyens techniquement parce que les LR sont eux-mêmes divisés sur cette question à l'Assemblée. Donc on n'est pas au bout de surprise, et Gérald Darmanin va quand même jouer assez gros dans cette
question. Le piège pour le gouvernement est redoutable parce que imaginons que le gouvernement cède sur l'article 3, mais il y aura d'autres demandes aussitôt qui porteront sur l'aide médicale d'État, sur d'autres...
Le retrait d'aide médicale d'État.
On leur donne ça et prennent ça, comme on dit.
On durcira encore, le gouvernement sera complètement piégé. Donc c'est vraiment une histoire dont on ne voit pas pour le moment d'issue, hormis le 49-3. Mais le 49-3, ça voudra dire une motion de censure qui sera votée par tous ceux qui veulent voir tomber le gouvernement. Ils sont nombreux à l'Assemblée.
On se demandait pourquoi il fallait cette 30e loi depuis 40 ans. Ben là, on se le demande vraiment. Quelle était la nécessité de cette loi
en dehors de faire l'opinion. Je pense que le texte cathédral sur un sujet.
Oui, mais fait l'opinion. Non, mais d'accord. D'accord. Alors, si c'est l'opinion, c'est quand même une opinion à laquelle on n'arrête pas d'alimenter dans ces mauvais.
Gouverner, c'est aussi un peu écouter l'opinion.
Comment C'est aussi éventuellement se préoccuper de la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, avec ce genre de débat et ce genre de loi, je suis pas certaine qu'elle va nous enchanter.
Henri.
Non, mais ce qui est clair, c'est qu'au sein même du gouvernement, moi j'ai entendu, enfin totalement évidemment en privé, mais quand même des poids plus ou moins lourds, déplorer totalement que cette obstination sur cette loi. Parce qu'une bonne partie de son contenu, en réalité, peut très bien passer par des circulaires, donc par des décisions de préfet, par le règlement, et non pas donc par une loi dont on savait qu'elle poserait polémique et qu'elle diviserait, y compris de la majorité.
Donc c'est donner le sentiment qu'ils font quelque chose.
Alors, cela, plaider un moment carrément pour qu'on laisse un petit peu cette loi de côté. Parce que imaginez, enfin, en tout cas dans leur esprit, s'imaginer tomber suite à une motion de censure sur un texte qui n'est pas de la gouvernance pure, comme par exemple peut l'être le budget. Quand vous faites le budget, c'est la politique de votre gouvernement, c'est la politique de la France, c'est quelque chose qui est consubstantiel, en quelque sorte, à la politique menée par le gouvernement. Cette loi, en l'occurrence, c'est beaucoup moins le cas. On voit bien, en effet, c'est une loi assez circonstancielle, c'est une loi, vous dites la 30e, si ce n'est la 35e, la énième loi, qui sont quand même des lois largement liées à l'état de alors peut-être pas de l'opinion, mais en tout cas à l'état du débat. C'est vrai que dans le contexte actuel, on pourrait penser que c'est plutôt populaire que l'idée de durcir. Néanmoins, elle n'est pas forcément indispensable. Et donc, c'est vrai qu'elle pose problème à ce gouvernement. Simplement, moi, je crois que la clé, elle est tout simplement dans le fait que Emmanuel Macron s'étant lui-même engagé et s'étant mis comme point d'honneur.
C'est aussi un gage d'autorité.
Il a confirmé à nos lecteurs, on en faisait un face aux lecteurs il y a quelques mois, enfin un peu après, en mai dernier, où il avait vraiment réaffirmé que oui, il voulait absolument ce texte, c'était pas question de céder. À partir du moment où lui-même a mis la barre aussi haut, comment sortir de ce piège?
Et puis c'est un enjeu majeur pour le dénommé Gérald Darmanin, qui joue de son avenir politique.
Est-ce que Macron a intérêt à lui rendre service?
Si ça passe, il est le prochain Premier ministre, obligatoirement. Parce qu'il y aura un Premier ministre.
Oui, donc il joue...
Nouveau Premier ministre après les européennes.
Faudra aussi réussir l'épreuve des Jeux Olympiques, Jean-Marie, pour lui.
C'est bien pour ça que je dis qu'en fait...
La Coupe du monde de rugby donne plutôt espoir dans ce domaine.
C'est bien pour ça qu'on peut se dire que l'enjeu de cette loi n'est pas le sujet prétendu.
Il y a toujours des enjeux multiples.
Non, il y a bien sûr des enjeux multiples, mais enfin là, en l'occurrence, il n'y avait pas de nécessité. Ce que l'on joue, c'est le rapport...
Il y a toujours du sous-texte dans une loi.
Oui, mais là, quand même, c'est beaucoup ça l'enjeu, c'est de savoir le curseur dans l'évolution de la politique gouvernementale dans son glissement vers la droite.
Alors, on passe à la chronique, à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult, comme chaque semaine. Bonjour ma chère Véronique, bonjour.
On va tout savoir. Là.
Vous allez nous éclairer, justement, on a longuement parlé avec nos brillants experts de la diplomatie française. Et finalement, les Français, qu'en ont-ils? Oui, attendez, je reformule. Qu'en ont pensé les Français?
Eh bien écoutez, on a sorti un sondage pour le Figaro aujourd'hui et il s'avère que pour une fois, les réseaux sociaux et les sondages ne sont pas toujours alignés, mais là, parfaitement alignés. En gros, les Français considèrent que la visite d'Emmanuel Macron à 55%, c'était important de se rendre au Proche-Orient. En revanche, à 67%, ils considèrent que ça ne va pas changer grand-chose et que son rôle ne sera pas si important. Mais en même temps, ils trouvent que c'était bien, globalement, de quand même y aller. Alors après, on aura posé la question, l'impact sur les positions que vous avez évoquées tout à l'heure. Et en fait, il y en a deux qui passent la barre des 30%, comme quoi elles pourraient avoir un impact. La première est redonner à la France une voix importante dans la région, 34%, et pourront aider à la reprise d'un dialogue entre Israël et la Palestine, à raison de 33%. Donc certes, c'est important. On ne croit pas forcément que ça a changé les choses, mais on ne l'aurait pas fait. On aurait reproché au président. Et enfin, sur les déclarations qu'il a eues en Israël, eh bien, il y en a deux qui dépassent les 70%. On estime que la sécurité d'Israël et la stabilité de la région ne pouvaient pas être durables sans une reconnaissance du droit légitime des Palestiniens à disposer d'un État. Ce point-là est largement salué par l'ensemble des Français, à 75%. Et évidemment, quand on regarde les partisans, plus on est à gauche, plus on est d'accord, mais globalement, 75% d'approbation pour cette déclaration. Et la deuxième déclaration qui dépasse les 70%, c'est cette lutte devait être sans merci, mais pas sans règles. Donc en gros, voilà ce que vous avez commenté tout à l'heure, les Français sont plus qu'alignés avec vos propos. Voilà, donc oui, c'était important, mais pas forcément très efficace.
Alors on a trop coutume de dire, Bruno, très vite, que la politique étrangère ne pèse pas tellement dans le bilan ou dans la vie politique française. Mais là, on voit tout de même que...
Je pense que les enjeux aujourd'hui sur la planète pèsent plus qu'on le dise. On l'a vu avec l'Ukraine, on le voit là, parce qu'en plus, c'est un lien direct. Dès que vous êtes sur les questions de terrorisme, les questions de ce qui s'est passé le 7 octobre, l'onde de choc arrive jusqu'à nous. Et de manière générale, la politique étrangère, non, sauf quand ça marche pas.
Oui.
Quand c'est malmené par le pouvoir en place, ça peut se retourner contre le président en exercice.
Sachant qu'effectivement, dans les messages que l'on peut lire en ce moment, c'est important pour eux parce qu'ils le ramènent à la réalité du territoire français. Ça même rejoint le sujet d'inflation. Dans les messages sur les forums, il y a des gens qui se posent des questions en disant, mais si le conflit dure, est-ce qu'on va payer plus cher l'essence? Donc en fait, l'étranger compte pas, mais en fait, comme les gens le ramènent à la réalité du territoire national avec soit des risques d'attentats, soit des risques d'inflation, eh bien oui, ça compte. D'où l'importance d'approuver ces propos.
Alors là, on revient dans un sujet un peu plus, on va dire, proche de chez nous.
Plus léger, finalement.
Oui, la mobilisation sur le chantier de l'autoroute A69.
Eh bien oui, alors il y a un dessin qui résume assez bien, un dessin humoristique de Gorce qui résume assez bien, c'est pas celui-là, c'est un autre qu'on a sauté finalement, cette petite image, voilà. Ce dessin résume bien finalement, face à ma géopolitico-anxiété, plus aucune trace de l'éco-anxiété qui m'empêchait de dormir. Mais dans le fond, les Français avaient presque envie de reparler de cette réalité de l'éco-anxiété. Et donc globalement, 130 000 messages autour de l'autoroute A69 cette semaine, avec 58% des messages qui étaient contre. Pourquoi ? Parce que en gros, ce sont plutôt les militants qui se sont activés, parce que globalement, c'est un message national et seuls les gens qui sont concernés localement pour l'autoroute 69 peuvent considérer que 15 minutes, ça a du sens. Donc beaucoup de critiques et beaucoup de partage sur une aberration écologique qui, visiblement, sur l'éco-anxiété qui manque aux Français, ils ont eu une réponse avec cette autoroute A69, d'autant que les arguments qui étaient partagés par les opposants étaient simples, pour une fois, clairs et sans embâge. Voilà, ça va ?
Voilà, c'est parfait.
Que j'avais le grouillé dans l'oreillette. Non, non, mais voilà.
Non, bah, non, vous êtes...
c'est bon.
Vous êtes on time, comme on dit. Merci voilà. beaucoup, ma chère Véronique. Merci à tous. Et merci à Agnès Lecossec et à toute l'équipe technique pour avoir préparé cette émission très vite.
Je fais sauter la fin du cours.
En novembre, c'est Mois sans tabac, le meilleur moment pour arrêter de fumer. Vous savez pourquoi ? En vous inscrivant sur le site Mois sans tabac, vous bénéficiez d'un programme en ligne et personnalisé. Vous trouverez aussi pour vous aider à tenir des conseils, des jeux et des activités. La possibilité de trouver un tabacologue près de chez vous et de prendre rendez-vous. Et d'autres choses à découvrir. Alors, inscrivez-vous sur le site Mois sans tabac.
J'aurais besoin d'un prêt pour rénover mon toit. Avec la pluie, j'ai peur qu'il finisse en gruyère.
Ah, dommage. L'humidité, c'est top pour l'affinage du gruyère.
La météo avec Carrefour Banque. Vos services financiers. Carrefour, bien plus que des courses. Retrouvez votre programme avec Nesten. Groupe d'agences immobilières pour acheter, vendre, louer et gérer vos biens partout en France.